Clémentine Portier-Keltenbach est restée avec nous pour l'épreuve du quiz. Clémentine, dont le cerveau n'est pas sans rappeler la légendaire bibliothèque d'Alexandrie, en moins bien rangée. On l'a vu avec le triste épisode dit du mari de Madame Récamier qui était son père, ou l'inverse, on ne sait plus. Tâchez, Clémentine, de mettre un peu d'ordre dans vos souvenirs d'histoire. Jouons ensemble à Born to be Alive. Stéphane, première question. Vous groovez de plus en plus sur cette musique. Hein. C'est vrai, une très belle version de Born to be Alive. Effectivement, une version fichier MIDI, comme on l'appelle. On a déjà évoqué ici, Stéphane, Le coucher de la mariée, considéré comme le premier film érotique de l'histoire du cinéma, qui était sorti en 1896. Mais ce qu'on sait moins, c'est que le producteur de ce film est Eugène Pirou, un photographe connu pour avoir immortalisé les événements de la Commune. Vrai ou faux ?
Comment voulez-vous que je le sache ?
Mais je ne sais pas, vous êtes censé connaître un peu l'histoire.
Moi, je pense que c'est vrai.
Oui, moi aussi, mais parce que ça serait très étrange.
Ça serait vraiment étrange.
Oui, oui.
Ça aurait pu être Nadar, ça aurait pu...
Oui.
Enfin,
Nadar n'a pas fait...
Il n'a pas fait de nu, il n'a pas fait de cinéma.
Il n'a pas fait les événements de la Commune.
Il est mort avant ?
Non, mais il s'intéressait plutôt à la bonne société. Et donc, il a photographié les grands personnages. Eugène Pirou, écoutez son nom.
Bien sûr, mais Eugène, enfin Stéphane. Eugène Pirou.
Vous avez gagné.
Bah bien
c'est
sûr.
Une bonne réponse, Stéphane. Ouais. Décidément, vous connaissez tout de l'histoire de France.
Eugène Pirou. Vous-même, vous l'aviez. Avant d'entrer dans ce studio, vous n'aviez même pas idée de qui était Eugène Pirou.
Bien évidemment, j'avais assisté à une exposition où on voyait des clichés de la Commune, par Eugène Pirou, bien sûr. En plus, vous savez que j'ai une très bonne mémoire. Donc, je ne l'aurais pas oublié facilement. Eugène Pirou, c'est le photographe de la Belle Époque. Sollicité par la Commune, il va immortaliser de nombreux gardes nationaux tués au combat. Il fera également le portrait officiel d'Émile Loubet et produira donc Le coucher de la mariée, où la future épouse fait un striptease, où elle finit en maillot de corps. Du film, on n'a plus que les deux premières minutes. On imagine que dans les cinq dernières, l'actrice Louise Willy finit en nu intégrale, mais
petit
on ne peut que
canaillou,
le supposer.
Eugène Pirou.
Oh oui. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Saint-Pétersbourg, Petrograd, Leningrad, c'est une seule et même ville qui, au cours de l'histoire, a changé moult fois de nom. Quand, en 1978, Boney M. sort Rasputin, comment s'appelle la ville ?
En 70 ?
En 78, hein.
En 78.
Elle s'appelle Leningrad.
C'est Leningrad à l'époque, c'est pas encore, c'était pas Petrograd.
Ou Saint-Pétersbourg.
Non, non c'était Saint-Pétersbourg, pas déjà Saint-Pétersbourg. Non.
Sous la Perestroïka.
Oui, c'est bien plus tard. Oui, oui, tout à fait.
Petrograd, c'est pendant la guerre de 14.
Vous savez
donc
ce que ça
c'est
veut dire,
encore Leningrad.
La ville de pierre.
Non, mais je sais. Mais la Perestroïka, j'y pense parce que vous n'êtes pas russophone. Oui, qu'est-ce que ça veut dire, la Perestroïka ? C'est un mot russe.
C'est la déglaciation. C'est la.
Non, Stroïd, c'est construire.
La déconstruction.
C'est la reconstruction.
La reconstruction.
Je vous donne un petit. Je ne sais pas pourquoi je vous offre une info supplémentaire.
C'est Leningrad.
Oui. Donc Stéphane, vous avez répondu à la question.
Ah pardon.
Vous venez donc d'offrir un point.
Oui.
Bien joué. Bah,
je le savais.
Vous le saviez, mais c'est quand même Stéphane qui l'a dit en premier.
Mais parce que je veux aider ma copine.
Bah, bien sûr, c'est
mais
gentil.
Donc toujours pas compris à ce stade de la saison le concept de compétition.
Moi, j'étais en Russie à l'époque de la Perestroïka et j'étais à Leningrad qui n'était pas encore...
Donc vous le savez.
Mais est-ce que vous savez, cher Mathieu Noël, que non seulement... Saint-Pétersbourg a retrouvé son nom, mais tous les autres.
Bien sûr.
C'est-à-dire que autour,
et que l'URSS est devenue la Russie.
On a rebaptisé parce que, par exemple, Ekaterinbourg ne s'appelait pas Ekaterinbourg. Il y avait, par exemple, Lomonosov est redevenu Oranienbaum.
Enfin, on a désoviétisé.
On a retrouvé les noms allemands aussi qui préexistaient parce qu'on avait. Tout russifié pendant la guerre de 14.
Il y a eu quand même cet événement incroyable du retour des restes à Saint-Pétersbourg. Vous y étiez.
Tu y étais, vous y étiez.
Non,
là,
parce que dans la vie,
non, parce que c'est l'émotion, les obsèques.
À l'antenne, on ne veut pas vous laisser
incroyable.
De côté.
On réalise que vous vous connaissez sacrément dans la vie. Hein. Et bien effectivement, c'était Leningrad. À travers son histoire, la ville a connu 14 appellations différentes. La chanson de Boney M est sortie en 78. C'était Leningrad depuis 1924 et c'est Saint-Pétersbourg depuis 1991. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, c'est le naufrage du Titanic. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de question sur le Titanic.
Ah oui, c'est vrai, ça nous manquait.
Dans quel film on voit le plus de décès ? Titanic ou Rambo ?
Oh là 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 là.
Des décès qu'on voit à l'écran.
Ah oui. Ah bon, ah oui, bon.
Ah oui.
Il n'y a pas tellement de morts dans Rambo.
Non, moi j'allais dire le contraire, il n'y a pas tellement de morts dans Titanic.
Vous avez souvent vu Rambo ?
Non.
Non.
Ah bah oui, moi demandez-moi, j'ai même vu la dernière version là. C'est incroyablement mauvais.
Ah, c'est mauvais, oui. Non, mais le premier Rambo est peut-être un peu meilleur.
Oui, très bon, excellent.
Très bon, excellent. Alors combien de morts ?
Moi je pense qu'il y a plus de morts dans Rambo. Parce que dans Titanic...
À mon avis, dans Titanic, ils n'ont pas voulu effrayer les gens. Et donc,
c'est pas la croisière s'amuse, hein, c'est Titanic, il y a des morts.
Oui, mais vous nous dites des morts à l'écran.
On les voit pas. On voit des gens qui font au secours, je me noie. Etc.
Vous auriez été bon dans Titanic. Vous auriez été bon à la place de Jack. Tenant la main.
Je sens que vous avez envie, Mathieu Noël, que je dise Rambo. Donc c'est dans Rambo qu'on voit le plus.
Moi je pense que c'est dans Rambo, c'est ce que j'aurais répondu.
Je n'ai aucune envie. Je suis un juge neutre.
Oh juge.
Et je distribue les points.
Vous êtes un procureur.
Je suis suisse,
mais,
moi,
mais
monsieur.
Pas du tout, pas du tout.
Alors Rambo.
Vous avez perdu. James Cameron n'a pas tenté de nous ménager quand il a réalisé Titanic, Stéphane. Titanic où l'on dénombre 307 décès à l'écran, alors que dans Rambo, sorti en 82, il y a un mort. Et 236 morts dans Rambo 4, celui dont vous parliez,
je pense. C'est peut-être celui-là qui m'a marqué.
Effectivement.
Parce qu'il sulfate à tour de bras dans le dernier, c'est une hécatombe.
Donc pour Stéphane, il faut bien préciser que pour Stéphane, les gens qui tombent dans l'eau depuis 100 mètres du haut du Titanic quand il est relé, ils ne décèdent pas, ils vont juste prendre un bain.
Ils peuvent être pêchés.
Oui, bien sûr, ils peuvent être pêchés. Puis à la fin, quand ils sont tous glacés, qu'ils sont tous bleus dans l'eau comme ça, quand les barques reviennent, ils sont en train ils font de la phytothérapie.
Non mais qu'est-ce que vous dites, dans Rambo 1, il n'y a qu'un mort.
Oui, c'est pour ça que ça fait
qui avait compté le nombre de morts dans Titanic.
Ah bah vous savez, les fans de Titanic, moi je l'ai vu 6 fois en salle au cinéma à l'époque.
Vous n'avez pas compris la première fois ?
J'avais pas compris, c'est surtout qu'à chaque fois j'avais une fille différente. C'est une autre histoire. Question numéro 4, Clémentine Portier-Kaltenbach. Francis Galton est le cousin de Charles Darwin. Il a inventé le réveil matin réglable. Celui que vous pouvez faire sonner à l'heure de votre choix avec une sonnette particulièrement agréable. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Le cousin de Charles Darwin serait l'inventeur du réveil matin.
Ah, étonnant.
Quelle famille.
Donc le réveil matin aurait été inventé dans les années 1870, quelque chose comme ça, puisque l'origine des espèces, c'est quoi, c'est 1869, et donc le réveil matin daterait de 1870. Oh non. Non, je la sens pas, votre histoire de...
Non, on n'y croyait pas.
Vous avez gagné !
Effectivement, vous avez raison de ne pas y croire, c'est faux. En revanche, Charles Darwin a eu un cousin qui s'appelle bien Francis Galton et qui a inventé quelque chose. Il a inventé l'identification des individus par empreinte digitale.
Ben non, c'est pas Bertillon, ça ?
Mais non, c'est un Américain, c'est toujours un Américain. Francis Galton était anthropologue, il est également considéré comme le père de l'eugénisme. C'est moins bien. C'est lui qui a inspiré la stérilisation massive des individus déviants, comme notamment les alcooliques, les schizophrènes et les animateurs de radio. Donc ça, c'est une question qui est éclairante. Est-ce que nous avons le temps de faire la dernière ou est-ce que il y a une victoire qui se dessine dans ce quiz.
Elle a gagné. Hein.
Et là,
non, malheureusement, vous n'aurez pas votre cinquième question parce que Clémentine a encore gagné.
Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, celle qui
me... Ah bah ouais.
Tu peux jouer.
Non, t'as taillé.
Non, c'est juste pour le timing. Je m'en fous.
C'est Clémentine Portier-Kaltenbach qui rend... Ah non, on me signale en régie que non. Un changement, une modification de dernière minute de notre règlement vient d'être modifié par notre huissier en régie.
Ça le reprend.
Qui me signale que non, les compteurs sont exceptionnellement remis à zéro. Et nous allons insister à la question numéro 5, celle que vous attendez toute, la question de rapidité qui va départager nos deux champions. Dans les années 40, un groupe de gospel américain a son petit succès. C'est les Jubalairs. Ce groupe est particulier. Pourquoi ? 3 propositions. Il est considéré pour avoir fait du rap pour la première fois. Il était non mixte, composé exclusivement de femmes, ce qui était rare pour du gospel, ou il était sponsorisé par une marque de chocolat, et forcément aujourd'hui, ça ferait grincer des dents.
Oh là,
sponsorisé, 3.
La 2, moi.
La 2. Nous sommes face à un cas d'égalité dans la nullité. C'est ma situation préférée dans ce quiz. Aucune bonne réponse, alors qu'une seule était logique. Une seule avait quelque part
c'était
un
que
intérêt.
Des femmes.
Mais non, c'était que ce groupe soit le premier à avoir fait ce qu'on appelle aujourd'hui du rap. Les spécialistes estiment que c'est la première fois qu'on y entend des paroles plus parler que chanter. C'est donc un peu le premier groupe de rap de l'humanité. Écoutons Preacher and the Bear, le prêtre et l'ours.
Yes, just come on, brothers, if you want to hear a story about that preacher and the bear. Gather round, boys, I don't want you to miss none of this here story, cause it goes like this. A preacher.
Les spécialistes peuvent dire ce qu'ils veulent, ça chante quand même un petit peu plus que du rap, hein. Parce que vous en pensez,
les années 40, oh ben non, ça vaut pas Tupac.
Et donc, qui remporte ce quiz? Personne ne remporte ce quiz. Vous avez été aussi nul l'un que l'autre.
Chapeau,
je
non,
vous félicite.
Ça devient absolument n'importe quoi.
Oui. Bon,
ça
l'a je vous confirme, ça a toujours été.